Le journal Babel Pongo Massimango.
Séance principe pour aujourd'hui que démarre la réunion des experts de la grande commission mixte RDC République Sud-Africaine. Les travaux ont lieu à Pretoria. Dans ce journal, des détails sur la journée de ce lundi avec Georges Kamoudjova qui est sur place, mais aussi la réaction de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud. Au Nord Kivu, polémique autour du retrait du mouvement armé par écho du processus de paix, tel qu'annoncé le 25 mars dernier par son président. Dans ce journal, le point de vue de Senduku Museveni, président de ce mouvement, et de Firmin Matesi Kouli, conseiller politique du Pareco. Près de 20 tonnes de marchandises à destination de Bouta traînent à Beni Porte Transport. Les avions de l'unique compagnie qui desservait cette région sont cloués au sol depuis le mois dernier. Et pour cause, sa licence d'exploitation a expiré. Nous en parlons dans la seconde partie de ce journal. Bonjour à tous. Congolais et Sud-Africains évaluent dès ce lundi à Pretoria leurs différents accords de coopération sur ce qu'ils appellent la Grande Commission Mixte. Ce cadre dit de coopération avantageuse existe depuis 2004. Georges Kamoudjova, c'est en principe, vous êtes avec nous à partir de l'Afrique du Sud, c'est en principe ce lundi que le travail commence.
Oui, il pourrait peut-être commencer cet après-midi ou demain matin. Les premières délégations congolaises ont fini d'arriver très tôt ce matin. Elles sont composées d'au moins 100 personnes, dont une cinquantaine d'experts. Les formalités continuent au lieu même des réunions. La tâche des experts est de préparer le travail avec leurs homologues sud-africains. Et demain, il est prévu qu'une dizaine de membres du gouvernement arrivent également à Pretoria pour finaliser et avaliser le travail qu'auront fait les experts.
Le président Kabila sera sur place à Pretoria.
Bon, il est annoncé à la clôture de la cérémonie qui devrait intervenir avant vendredi. Une source diplomatique sur place nous a déclaré que ces accords sont importants et qu'il tenait à être présent pour manifester l'engagement de la RDC. Mais souvenez-vous aussi qu'à la 4e session de cette grande commission qui s'était tenue au mois d'août dernier à Kinshasa, le président sud-africain s'était déplacé et certains observateurs ici estiment que le président Joseph Kabila pourrait faire la même chose.
Mais Georges, alors quel est l'objectif principal de ces rencontres?
Alors l'objectif c'est d'instaurer une coopération que les deux pays qualifient d'agissante. La 5e session se chargera en particulier de voir comment sont suivis les différents accords et même d'en signer d'autres. Ces accords concernent plusieurs domaines, la défense, la santé, les transports, les infrastructures et bientôt l'énergie, nous disait il y a 2 minutes un cadre du ministère des Affaires étrangères. Également, d'autres protocoles pourraient être signés dans le cadre même de l'environnement ou des transferts de connaissances dans le cadre de la recherche scientifique. Et donc, les deux pays y accordent beaucoup d'importance.
Oui, merci Georges. Nous vous retrouvons dans nos prochaines éditions d'information. En 4 ans d'existence de cette grande commission mixte RDC-RSA, 30 accords ont été signés. Quels doivent être les impacts de ces accords? L'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud estime que ces accords ont déjà des effets chez les Congolais. Benin Poko cite entre autres l'intégration de l'armée à travers le brassage des troupes. Les diplomates congolais déclarent en plus que ces accords iront même dans le domaine de l'habitat. On écoute l'ambassadeur Benin Poko.
Il y a des accords qui vont nous aider à créer d'autres institutions nouvelles. Par exemple, on prévoit la création d'une banque d'habitat. Parce que comme vous le savez, le Congolais achète sa maison cash. Il n'a pas accès au crédit pour acheter la maison. Donc on va créer une banque d'habitat. On va aussi créer une société nationale d'habitat pour remplacer l'ancienne ONEL. Donc il y a ces accords-là qui visent la création de nouvelles institutions à part ceux qui se concentrent sur le renforcement des capacités. Dans le domaine de la construction de l'habitat, l'Afrique du Sud va nous aider à développer aussi les normes et ce qu'on appelle les standards. C'est parce que chez nous, on construit de façon anarchique. Il y a des accords à impact très visibles, le peuple peut suivre ça, mais il y a des accords à impact qu'on ne voit pas.
On doutait que l'ambassadeur Benin Poko était au micro de Georges Kamoudjova. au Nord Kivu, polémique autour du retrait du mouvement armé Pareco du processus de paix, tel qu'annoncé le 25 mars dernier par son président Sinduku Museveni. Pour Firmin Matesikouli, conseiller politique de Pareco FAP, et récemment nommé sur ordonnance du chef de l'État comme porte-parole de groupes armés du Nord Kivu, son mouvement ne s'est jamais retiré de ce processus. Pour lui, les déclarations faites par Sinduku Museveni n'engagent que le concerné. Pour rappel, Sinduku avait déclaré que son mouvement suspendait sa participation au processus de suivi des accords de la conférence et pour cause, il dit avoir été écarté des postes de responsabilité dans les ordonnances présidentielles nommant les coordonnateurs nationaux adjoints des commissions techniques et leurs secrétaires permanents et également des coordinations techniques des observatoires de cohabitation intercommunautaire et de gouvernance. Firmin Matesikouli est au micro de Denis Lukesso.
La Pareco FAP qui a signé l'acte d'engagement issu de la conférence d'Egoma du mois de janvier reste fidèle au processus de paix et ne peut jamais se désengager, comme a dit le camarade de Museveni, qui est un cadre politique de la Pareco FAP comme tous les autres conseillers politiques.
Mais pour Sinduku Museveni, le Pareco reste sur ses positions jusqu'à ce que leurs revendications trouvent satisfaction. Il a été joint au téléphone par Denis Lukesso.
Entre le conseiller et le président qui prend une décision. Je dis bien, il n'est ni mandaté par le mouvement, ni mandaté par le groupe armé. Je dis bien que ça engage le mouvement. Je n'ai pas signé comme individu, j'ai signé comme président Pareco. La Pareco s'est retirée du programme à Mani jusqu'à ce que ses revendications aient une solution et une solution durable.
Vous vous souviendrez que le coordonnateur du programme Amani avait réagi la semaine dernière sur nos antennes à ce sujet. L'abbé Apollinaire Malou Malou avait déclaré que les revendications de groupes armés qui avaient décidé de claquer la porte du programme Amani étaient sans objet. D'après lui, les choix proposés par les groupes armés ont été respectés et que pour le reste, c'était au chef de l'État de décider. Toutes les réclamations devraient se faire au sein de la commission mixte paix et sécurité, avait-il ajouté. Avant de quitter le Nord Kivu, parlons de ce cas d'assassinat à Goma. Une femme ménagère a été tuée à son domicile par des bandits armés la nuit de samedi à dimanche. Selon la police, ces hommes ont emporté des biens de valeur de la victime. Notez que c'est la 10e personne tuée à Goma en près de 3 semaines. Les enquêtes initiées pour tous ces cas d'assassinat n'ont donné jusque-là aucun résultat, indique un responsable de la police. Les réfugiés congolais de la Tanzanie ont été sensibilisés à retourner en République démocratique du Congo. Le comité de sensibilisation qui s'est rendu dans le camp des réfugiés en Tanzanie est rentré hier au Sud Kivu. Ce comité est composé des autorités territoriales d'Uvira et de Fizi, des acteurs des groupes sociaux locaux et de hauts commissariats pour les réfugiés. L'objectif était de fournir aux réfugiés la vraie information sur l'évolution de la situation dans leur zone de retour. Rappelons que 95% de ces réfugiés congolais sont ressortissants d'Uvira et de Fizi. Depuis octobre 2005, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés a facilité le retour de près de 50 000 personnes dans ces deux territoires. Mais depuis décembre dernier, le mouvement de retour a sensiblement baissé suite à plusieurs raisons, dont la sécurité. L'administrateur du territoire d'Uvira, Daniel Elo Konsala, parle de résultats de cette mission. Il est joint par Fiston Goma.
Je ne suis pas informé de ces bonnes conditions sécuritaires dans les zones de retour, notamment de la province du Sud Kivu. J'ai eu cette information, notamment par la restitution de résolution de la conférence de Goma sur la fin de sécurité et le développement dans les deux provinces, Nord et Sud Kivu. Des assurances dans le sens qu'ils ont promis de rentrer après la fin de l'année scolaire et beaucoup de réfugiés sont tombés d'accord. Nous avons aussi obtenu comme résultat au niveau maintenant du rapport avec le HR dans le sens de créer beaucoup de conditions d'attractivité dans les zones de retour, de manière à répondre aux différentes doléances avancées par les réfugiés. Il y a aussi des projets au niveau d'État, il y a certains Congolais en refuge qui ont sollicité maintenant la réinstallation dans d'autres pays. Ce projet a été annulé par le HCR, donc il n'y a plus de raison qui continue à rester dans les camps.
Dans le cadre du désengorgement de la prison de Bukavu, toujours au Sud Kivu, des prisonniers pourront bénéficier d'une liberté conditionnelle. Cette déclaration est de Claude Nyamugabo, vice-ministre de la Justice et des Droits Humains, en visite au week-end dernier à Bukavu. Il n'a toutefois pas souhaité s'exprimer sur la lenteur de la justice et le non-traitement des dossiers des prisonniers. Interrogé sur les modalités de la liberté conditionnelle, le procureur général ad intérim près la cour d'appel de Bukavu, l'avocat général Jacques Méli-Méli, explique qu'il s'agit d'une mesure usuelle. On l'écoute au micro de Michel Chirimwami.
C'est une mesure qui est prévue par la loi, la libération conditionnelle. Et chaque année, il y a des prisonniers qui sont libérés conditionnellement dans notre pays. Donc pour cette année, nous avons déjà prévu 22 personnes qui avaient été condamnées et qui vont profiter de cette mesure de libération conditionnelle. Maintenant, quelles sont les conditions de libération conditionnelle? Il faut que les prisonniers soient disciplinés, c'est-à-dire qu'ils se comportent très bien dans la prison, qu'ils ne soient pas là comme un homme violent, un bandit, et qu'il ait déjà accompli un quart de sa peine. La libération conditionnelle, c'est-à-dire qu'il va à la maison, et le parquet va continuer à le surveiller. Pendant le reste de sa peine, il ne faudrait pas qu'il commette des infractions, il ne faut pas qu'il s'agite, parce que s'il commette d'autres infractions, pour le reste de sa peine, on les récupère et il va consommer le reste de sa peine encore en prison.
Selon Jacques Méli-Méli, la mesure concerne 22 prisonniers civils dont les dossiers sont déjà apprêtés. Il précise que l'auditorat militaire va démarrer la même procédure pour les détenus militaires.
Okapi, toutes les infos de l'ensemble du pays.
Nadine Foula, commençons par cet accident de train ce matin à Kalemie dans le Katanga. Le bilan fait état d'un mort et un blessé.
Il s'agit d'un train de marchandises de la SNCC, Société Nationale de Chemin de Fer du Congo. Selon le commissaire de district de Tanganyika, le mort est un capitaine de FRDC qui s'est accroché clandestinement entre deux wagons. L'accident est survenu lorsque les deux wagons se sont cognés. Les militaires qui se trouvaient au milieu s'y retrouvaient coincés. Le train tractait les conteneurs de la MONUC. Il venait de Kabalo à destination de Kalemie. Il faut signaler, Babel, qu'un autre accident de circulation a eu lieu hier dimanche sur la route des Kipopo à Lubumbashi. Un camion transportant le moellon et roulant sans phare est entré en collision avec un autre grand camion en stationnement. Bilan, un mort et d'importants dégâts matériels.
À Bounia, une tension s'observe depuis ce matin. Des taximens moto, communément appelés de Toleki, se manifestent dans la rue.
Deux personnes protestent contre l'assassinat d'un de leurs camarades, tué à coups de poignard par son client hier dimanche vers 19h dans le quartier Bankoko. Selon le responsable de l'association de taximens moto de l'Ituri Atamoy, l'auteur du crime voulait ravir au taximen sa moto. La victime est morte de ses blessures à l'hôpital général de référence de Bounia. Des détails avec Jean-Claude Bissiliabo.
C'est lundi à Bounia, depuis tôt le matin déjà, des milliers de taximens ont occupé les différents points d'attraction de la ville. Ils ont barricadé les principales artères et empêché la circulation normale de tous les engins roulants. Aux conducteurs des véhicules, ils exigent des frais pour supporter les obsèques de leurs camarades. Ce dernier a été assassiné hier dimanche, aux environs de 19h, à coup de poignard lui administré à la nuque par son client. La victime a succombé de ses blessures quelques heures après à l'hôpital général de référence de la place. La police, qui n'a pas encore retrouvé les traces de l'auteur du crime, déplore cependant la manifestation des taximens. Selon Amoussini Motuta, inspecteur adjoint de la police en Ituri, ce genre de manifestations ne permettent pas aux policiers de bien mener leurs enquêtes.
À chaque fois qu'il y a un incident, au lieu de nous laisser d'abord travailler, ils nous bloquent en commençant à se soulever. À ce moment, on laisse d'abord les criminels, maintenant on cherche à maîtriser d'abord les manifestations. À ce moment-là, nous perdons toutes les traces des meurtriers. C'est ce qui nous bloque souvent.
Le taximen moto assassiné la nuit dernière est le quatrième enregistré à Bounia à l'espace de 3 mois. Bounia, Jean-Claude Bissiliabo, Radio Okapi.
À Matadinadine, la première plénière de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo a eu lieu.
Après plusieurs reports, cette première plénière de la session ordinaire de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo, ouverte le 15 mars dernier, se tient ce lundi. Selon son rapporteur, le projet de l'ordre du jour comprend, entre autres, la communication du président, lecture et adoption de l'ordre du jour du 15 mars dernier et adoption du calendrier de la session ordinaire du mois de mars 2008.
Et avec nous, Dandine, pour terminer, nous parlons en page internationale de cette information qui concerne le Zimbabwe.
Au Zimbabwe, l'opposition et les partis au pouvoir sont au coude à coude ce lundi à l'annonce de premiers résultats des élections générales de samedi. Sur 24 des 210 sièges de députés attribués jusqu'à présent, le MDC et la ZANU-PF de Mugabe en ont remporté chacun 12 selon la commission électorale.
Merci Nadine. L'information se poursuit sur notre site www.radiokapi.net. Merci de nous avoir suivis.
Okapi.